Seigneur, au moment de nous arrêter sur ta parole, sur ce que ta parole nous enseigne, nous voulons, Seigneur, encore une fois et sans nous lasser, te supplier, Seigneur, de nous instruire toi-même. Ainsi qu'il est écrit, vous serez tous instruits par l'Éternel. Nous te demandons, Seigneur, ce matin que nous soyons instruits par toi. Nous voulons te demander, Seigneur, que ton esprit puisse asseoir ta parole dans nos cœurs. Que ta parole puisse vraiment prendre forme en nous, qu'elle puisse nous imprégner, que nous puissions nous en approprier, que nous puissions la comprendre, que nous puissions, Seigneur, comprendre là où elle nous amène, là où elle nous conduit. Seigneur, nous savons que c'est ta parole dont nous avons besoin. Nous te bénissons pour Jésus, la parole faite chair, et nous nous remettons à toi pour ces temps de ta parole, que ton esprit vraiment sature ces instants, sature nos cœurs maintenant, afin que cet enseignement puisse nous édifier individuellement, collectivement, et que nous puissions, Seigneur, ensemble faire des pas en avant à ta suite. Nous te le demandons, au nom de Jésus. Amen. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Comme vous le savez, nous allons continuer l'enseignement que l'on a commencé sur le monde spirituel. Alors, je fais toujours la même introduction pour ceux qui seraient là pour la première fois ou pour ceux qui ne viennent pas, merci beaucoup, qui ne viennent pas régulièrement. Nous ne passons pas nos vies à parler de ça, c'est pas le seul sujet qu'on traite dans l'Église, simplement, nous sommes dans le moment où nous abordons ce sujet-là, et donc, nous prenons le temps de pouvoir nous arrêter sur ces réalités-là aussi. En sachant que, comme je l'ai montré une fois, c'est une réalité, la réalité du monde spirituel, que ce soit le monde spirituel bon, c'est-à-dire le monde spirituel de Dieu, que ce soit le monde spirituel mauvais, c'est une réalité qui est dès les premiers chapitres de l'Évangile, c'est une réalité qui remplit la Bible. Et c'est une réalité sur laquelle nous devons être instruits. Nous devons être instruits, nous ne pouvons pas être des ignorants de ces choses-là. Ainsi qu'il est écrit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et donc nous ne voulons pas qu'il nous manque des connaissances sur un certain sujet, raison pour laquelle nous abordons ce thème et nous l'abordons également dans le culte public. Alors la dernière fois, nous avons parlé de Satan et nous avons un peu donné quelques qualificatifs que la Bible donne au sujet de Satan. Alors, il est évident, et j'espère que vous vous en rendez compte, qu'ici, on survole, hein, il y aurait des choses à dire, à n'en plus finir, mais ici, bon voilà, il faut qu'on puisse tenir dans un temps réduit, et donc, voilà, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de choses à dire, on pourrait être beaucoup plus précis, beaucoup plus méticuleux, mais l'idée, c'est vraiment qu'on ait tous un aperçu de ce que la Bible enseigne à ce sujet-là. Aujourd'hui, nous allons parler des intentions de Satan. Nous avons parlé hier des qualificatifs de Satan, maintenant nous allons parler de ses intentions, de ce qu'il veut faire, de ce qu'il souhaite faire. Donc, la Bible nous enseigne que Satan est un ennemi, est notre ennemi, un ennemi qui a des intentions. Ce n'est pas un ennemi qui passe comme ça, ce n'est pas un ennemi sans projet, ce n'est pas un ennemi sans but, c'est un ennemi qui a envers le peuple de Dieu des intentions précises. La Bible dit dans 2 Corinthiens 2, 10 à 11, « Or, à vous qui pardonnez, je pardonne aussi, et si j'ai pardonné quelque chose à quelqu'un, je l'ai fait à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. » Alors, on ne va pas rentrer dans le détail du texte, mais vous voyez bien que la Bible nous montre dans le verset 11 que Satan a des intentions. Satan a des intentions vis-à-vis des hommes, vis-à-vis en particulier des enfants de Dieu, mais on a vu la dernière fois qu'il a une action qui concerne tous les hommes, mais en particulier sur les enfants de Dieu. Ses intentions sont mauvaises, elles visent notre mal. Il est un ennemi qui intentionnellement veut nous faire du mal. Ce texte nous montre quelque chose d'intéressant, c'est que Satan peut prendre avantage sur nous. Nous avons vu, et nous l'avons dit, et il faut rappeler, et c'est fantastique de pouvoir le dire maintenant, nous avons vu que Jésus a vaincu. Il a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il a vaincu le diable. Donc le diable, pour nous, est un ennemi vaincu. Nous sommes dans 2 Corinthiens, nous sommes donc après le sacrifice de Jésus, et pourtant, l'apôtre Paul dit clairement, afin qu'il n'ait pas, il ne prenne pas avantage sur nous. Ça veut dire que cet ennemi vaincu est un ennemi qui est encore à l'œuvre, il a encore des intentions, et il peut encore aujourd'hui prendre avantage sur nous. Il peut encore avoir un impact sur nos vies, malgré le fait que nous sommes sauvés, assis dans les lieux célestes avec Christ, pardonnés, nos noms sont inscrits dans les livres de vie. Il peut malgré tout, dans une certaine mesure seulement, prendre avantage sur nous. Si nous, il y a deux grands éléments qui peuvent lui permettre de prendre avantage sur nous. Le premier, c'est de ne pas connaître ses intentions. Quand on ne connaît pas les intentions de Satan, quand on ne sait pas ce qu'il a l'intention de faire, et vous voyez que le texte dit « car nous n'ignorons pas ses intentions ». En d'autres termes, le croyant ne doit pas ignorer les intentions de Satan. C'est la première chose. Il faut les dévoiler, ses intentions. Nous devons savoir ce qu'il veut faire sur nous. Nous devons savoir quelles sont ses intentions par rapport à nous. Et puis, deuxièmement, il peut prendre avantage sur nous si nous lui laissons l'espace pour réaliser ses projets et ses desseins. Il peut prendre l'avantage sur nous. Nous pouvons donc, par certaines attitudes, donner une prise à Satan et lui permettre de prendre avantage sur nous. Pour rappel, nous l'avons dit la semaine passée, Satan est appelé dans la Bible malin. Il agit de façon très cachée. Et comme il est malin, il utilise des ruses, des sournoiseries, des pièges subtils. Et ça, c'est vraiment une chose, s'il y a une chose qu'il faut retenir de tous ces enseignements qu'on fait depuis plusieurs mois, c'est qu'on doit se sortir de la tête cette image du Satan qui se montre, qui manifeste sa présence, qui... La majorité de ce que Satan fait est sournois, invisible, ce sont des pièges, il est le malin, il se plaît à ne pas se montrer. Et donc il a tout un ensemble de tactiques, des manœuvres, des ruses au travers desquelles il veut nous troubler. Ses intentions sont pleines de ruses et de sournoiserie, on peut dire aussi ça, il est sournois, mais elles n'en sont pas moins réelles. Satan s'incruste dans les failles que nous laissons ouvertes pour atteindre nos vies. Ça ne veut pas dire que nos vies sont enlevées de la main de Dieu, nous l'avons dit. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, comme disait notre aimable frère Jean-Pierre. Mais malgré tout, il peut prendre avantage sur nous si nous lui laissons la place pour le faire. Les intentions de Satan. Alors là, ici, je vais en parler, je vais en donner quelques-unes de façon simple. On va en voir d'autres avec des versets, mais comme ça, on a un aperçu. Premièrement, un premier but de Satan, c'est de tromper, c'est de séduire, c'est d'égarer. Par la ruse, par le mensonge. Donc, il cherche à nous tromper. On voit que dès la Genèse, il cherche à tromper Adam et Ève. Il cherche à mentir, il cherche à séduire. Encore une fois, vous voyez l'idée de séduire. C'est quelque chose de sournois. Donc on va essayer de quelque chose pour le tromper. Il va essayer de séduire par la ruse, il va essayer de séduire par le mensonge. Une autre intention de Satan que nous devons connaître, qui est extrêmement importante, c'est que Satan veut diviser, il veut désunir, il veut séparer. Le royaume du diable, c'est le royaume de la haine, c'est le royaume de la division. Donc l'intention spécifique de Satan, c'est de diviser. Il veut semer la zizanie, il veut mettre la brouille entre les hommes, il veut mettre la brouille dans les familles, il veut mettre la brouille dans les couples, il veut mettre la brouille partout où il peut mettre la brouille, pour faire simple. C'est marrant, non ? Et donc nous devons faire attention parce que là où il y a tout un enjeu d'unité, eh bien, Satan essaie de créer des oppositions entre les hommes, de faire en sorte que les hommes se séparent, que les hommes s'éloignent les uns des autres, que les hommes ne s'aiment pas, ne se pardonnent pas, ne se soutiennent pas. Donc, tout ce qui va à l'encontre du pardon, de l'entente, ce sont des choses que Satan valorise. La rancune, l'amertume, les conflits, le ressentiment, ce sont des choses qu'il aime particulièrement. Une autre intention de Satan, c'est de susciter, et c'est une intention un peu principale, c'est de susciter la rébellion. C'est de susciter la désobéissance à Dieu et à sa loi. Il veut faire en sorte que nous soyons désobéissants à Dieu. Il veut nous pousser à désobéir à Dieu. Il veut nous pousser à nous égarer de la volonté de Dieu. Il veut nous entraîner dans le péché. Il veut nous faire sortir de notre alliance avec Dieu, de notre communion avec Dieu. Il veut nous éloigner de Dieu. Il veut susciter dans nos vies la désobéissance à Dieu et à sa loi. Alors, on l'a vu dans Genèse 3, c'est exactement ça. Hein. Dieu a-t-il vraiment dit? Donc, pour pousser les hommes à s'opposer à la volonté de Dieu. Une autre intention de Satan, c'est d'égarer, de perdre les âmes, hein, de permettre que des âmes soient détruites. Alors, on peut, la destruction ici, il faut l'entendre dans plein de sens. Quand on dit qu'il veut détruire, il veut détruire les vies des gens par le péché. Vous savez que le péché détruit nos vies. Combien de vies ne sont pas détruites dans ce monde par des habitudes, par des façons de vivre? Il veut détruire, abîmer la vie des hommes. Il veut nous égarer, il veut détruire notre joie, détruire notre paix, détruire tout ce qu'il peut détruire, il le détruit. Et une autre intention de Satan que l'on peut mettre en évidence aussi, c'est de désorienter les destinées. C'est-à-dire de nous empêcher de vivre le plan de Dieu pour notre vie. Vous voyez que dès la naissance de Jésus, Satan a tout mis en œuvre pour soit le tuer. Vous voyez que vous vous rappelez cette intention qu'il y avait de tuer tous les... Voilà. Soit de le faire sortir de sa mission. Dans Matthieu chapitre 4, on voit que Satan commence à aller chercher Jésus. Hein, si tu... je te donnerai tous les royaumes de la terre, etc. etc. Pourquoi ? C'est pas juste pour que Jésus pêche. C'est la conséquence d'après qui l'intéresse aussi. C'est que Jésus ne puisse pas accomplir sa mission. Si Jésus pêche, si Jésus accepte le deal avec lui, eh bien Jésus ne peut pas accomplir sa mission et il réussit son plan, c'est que Jésus n'accomplit sa mission. Et donc Satan a aussi pour objectif de désorienter nos destinées, de permettre que nos vies n'aillent pas dans le sens où elles doivent aller. Ça l'intéresse que nous vivions mal, que nous détruisions des aspects de nos vies. Ça l'intéresse que nous nous trompions de chemin, que nous épousions la mauvaise personne, que nous choisissions la mauvaise voie. Tout ce qui peut permettre de désorienter, de dévier notre voie, et qu'en finalité nous n'accomplissions pas ce que Dieu... Est-ce que vous savez que Dieu a un plan pour votre vie ? Eh bien, Satan veut faire en sorte que ce plan ne se réalise pas. Tenter. Premièrement, on va prendre celui-là en détail. Vous voyez, le tentateur dans Matthieu... c'est 4, hein, désolé, c'est Matthieu 4. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Alors ici, vous voyez que ce qui est hyper pernicieux, c'est que là, ce n'est pas forcément une désobéissance à la loi de Dieu écrite. En d'autres termes, il n'y a pas comme un moment qui dit « tu ne transformeras pas des pierres en pain ». Mais le problème, c'est de faire sortir Jésus de la volonté de Dieu. C'est de pousser Jésus à devenir indépendant par rapport à la volonté de Dieu, à faire à sa propre mode, à sortir de la dépendance et de la relation qu'il a avec Dieu. Et donc, il veut inciter l'homme à pécher. Et ici, dans ce cas-là, c'est pécher, c'est vraiment sortir de ce que Dieu a demandé. Vous savez que c'est la racine du mot péché, rater la cible. Donc il veut faire en sorte qu'on rate la cible, qu'on se trompe de cible. Okay ? Il s'évertue, Satan, à mettre en place des efforts pour que les hommes pêchent. Il met en œuvre des manœuvres de tentation extérieures pour que nous pêchions. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il va faire en sorte de créer plein d'occasions pour que nous pêchions, pour que nous sortions de la volonté de Dieu. Mais aussi, Satan a une autre façon de nous pousser à pécher, c'est celle qu'il a utilisée notamment avec Adam et Ève, c'est en fait une mentalité qui a pour but de légitimer le péché. Retenons que la première ère d'action du diable, c'est notre intelligence. C'est notre façon de penser. Il travaille pas avec des couteaux, il travaille avec des pensées. Et donc il crée des façons de penser qui légitiment le péché. Et donc par exemple, il pourrait avoir un discours, pour le dire comme ça, même si c'est pas, je serai plus précis après, mais c'est un discours, c'est pas si grave que ça, mais tu sais, tout le monde le fait, et puis bon, voilà, personne ne saura, et puis bon, t'as bien des excuses. Donc il va tout faire pour légitimer le péché. Et il peut même utiliser des versets bibliques pour le faire. C'est pour ça qu'il faut bien connaître sa Bible. Et donc, il va nous tenter de ce genre de façon. Une autre façon de comprendre le fait de tenter, c'est qu'il va exciter au mal. Il va nous pousser au mal. Il va nous pousser à faire quelque chose que Dieu ne veut pas que nous fassions. Quand on lit dans 1 Chronique 21, 1 à 3, c'est le fameux texte qui parle du recensement, il est écrit « Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël ». Donc en fait, pour faire simple, David ne devait pas faire le dénombrement d'Israël. Ça ne plaisait pas à Dieu, pour faire simple. Et donc Satan se lève contre Israël en excitant David à faire ce dénombrement. Donc il pousse David à faire ce que Dieu ne veut pas qu'il fasse. Et le mot est intéressant, il a excité. Donc c'est vraiment ce truc de mettre le feu au pouls, de pousser, de tenter, d'acculer pour que nous sortions de ce que Dieu veut. Alors c'est intéressant, je fais une parenthèse à propos de ce verset, regardez, le texte dit « Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël ». On aurait pu s'attendre à dire ben, « Satan se leva contre Israël et il incita Israël à ». Non, Satan excite David, il touche le leader, il touche le responsable, parce que si le responsable pêche, il a tout le monde avec. Donc que ce soit dans le cadre de la société, le cadre de l'Église, sachons que Satan a un plan déterminé pour les responsables, pour les leaders, parce qu'en les attrapant, il a tous les autres avec. Alors, pour que vous le sachiez, parce que sinon certains vont dire oui, mais voilà, il y a un autre texte qui parle de la même situation et qui dit autre chose, qui formule les choses autrement. Mais en réalité, ce n'est pas contradictoire, mais on n'a pas le temps ici de l'expliquer. Donc si vous voulez, vous irez lire 2 Samuel 24, 1 à 3, vous verrez que c'est l'autre version du même texte qui semble dire le contraire, mais en fait, ce n'est pas le cas. Ça va? Donc vous lirez, vous réfléchirez, et vous trouverez pourquoi. C'est un petit jeu, si vous voulez. Ouais. Un autre élément à savoir par rapport à la tentation, c'est que Satan s'immisce dans toutes les failles possibles pour nous tenter. Il trouve toutes les failles possibles pour nous tenter. Dans 1 Corinthiens 7, 4 à 5, il est écrit « La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » Alors, vous voyez que premièrement, l'apôtre commence par montrer que la relation de mariage provoque une inter-exclusivité, donc les époux s'appartiennent l'un à l'autre, leur corps, on ne s'appartient plus à soi-même, mais on appartient à son conjoint. Et vous avez tous compris de quoi il s'agit. L'apôtre leur dit « Ne vous privez point l'un de l'autre afin de ne pas ouvrir une porte à l'ennemi qui pourrait vous tenter par votre incontinence. » Donc ne vous privez pas l'un de l'autre, pour ceux qui feraient les naïfs, il parle des relations sexuelles. D'accord ? Oui, parce que vous êtes tous là, « Ah bon, mais de quoi est-ce qu'il parle ? Pourquoi ne vous privez ?» C'est de ça qu'il parle, ok ? Et donc, il est en train de dire, ne vous privez pas l'un de l'autre pour ne pas ouvrir une brèche à l'ennemi dans laquelle il pourrait vous tenter. Il pourrait utiliser votre manœuvre telle que celle-là, enfin votre situation, pour vous tenter et pour vous mettre en difficulté. Alors, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'en fait, le texte dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. C'est intéressant, parce que c'est hyper actuel en fait. Comme tu n'es pas d'accord avec moi et que tu ne fais pas ça et que ceci, cela, tu n'auras pas ton biscuit ce soir. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est-à-dire c'est priver l'autre concrètement. Et en privant l'autre, on peut ouvrir une porte à l'ennemi. La Bible est extraordinaire. Quand vous lisez ce texte-là, vous vous dites, mais c'est vraiment la parole de Dieu. Dieu est extraordinaire, il est avant-gardiste sur tout, il parle de tout avec une sagesse profonde. Donc, Ça veut dire quoi? Alors là, je l'explique parce que c'est le passage, mais ça veut dire, pour prendre de la distance, ça veut dire tout simplement que il y a des situations dans lesquelles on peut ouvrir une porte au diable. On peut organiser nous-mêmes notre chute. Il y a des situations dans lesquelles on peut nous-mêmes s'exposer au danger. Alors là, on parle de ce sujet-là, mais il y a plein d'autres domaines dans lesquels nous pouvons nous-mêmes nous exposer au danger. Vous connaissez l'histoire de ce frère qui avait décidé qu'il avait un appel de Dieu, et son appel, c'était d'aller évangéliser dans les boîtes de nuit. Sauf qu'après, on ne l'a plus jamais retrouvé, parce qu'il s'est retrouvé dans le... Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons aussi, la Bible nous montre aussi qu'une certaine vigilance s'impose pour que nous puissions ne pas ouvrir de porte à l'ennemi, ne pas nous donner d'occasion de nous tenter. Parfois, nous vivons comme des gens qui marchent, c'est comme si vous êtes près de chez Myriam, moi j'aime bien aller près de chez Myriam, il y a un canal près de chez Myriam, le canal de Roux. Ben imaginez que vous êtes sur le long du canal, il y a le vent qui va à fond, et vous êtes là, juste au bord du canal, sur une seule jambe, comme ça, avec le vent qui va à 180 km/h, dire « Seigneur, tiens-moi, Seigneur, tiens-moi, Seigneur, tiens-moi ». Ben non, tu te mets en danger toi-même. Donc nous devons avoir une sagesse pour ne pas donner d'occasion à l'ennemi de nous faire tomber. Il utilise les failles. Et une chose qui est très intéressante, c'est que souvent les tentations dans lesquelles Satan veut nous mettre prennent appui sur une faiblesse que nous avons ou que nous avons créée. Alors, je vais essayer de dire ça vraiment très rapidement, mais si vous voyez le passage d'avant, en réalité, Satan utilise une faiblesse particulière, soit que nous avons, soit que nous lui laissons, soit que nous organisons. Donc quand on dit « vous ne créez pas l'un de l'autre », ça veut dire vous créez une situation de faiblesse et c'est cette situation de faiblesse qu'il peut utiliser. Et donc de façon plus générale, il va utiliser des faiblesses qu'on laisse, mais qui ne sont pas nécessairement des faiblesses problématiques. Enfin, je veux dire, en soi, c'est juste quelque chose d'humain de souhaiter être avec son époux ou son épouse. Ça n'a rien de problématique en soi, c'est juste un fonctionnement humain qu'on a. Voilà, mais si on ne fait pas attention, il peut s'immiscer là-dedans. Et donc, parfois, il peut aussi utiliser des besoins humains les plus légitimes pour nous tenter, pour nous faire tomber. Alors aussi, c'est intéressant de voir que la Bible nous montre que les tentations du diable nous conduisent à la ruine. C'est-à-dire que quand on dit qu'il n'a pas de bonnes intentions, ce n'est pas une blague, hein, mais ça nous conduit à la ruine. Si vous lisez dans Jean 13, verset 2, il est écrit, enfin on va lire les deux versets, « Et un souper ayant lieu, le diable ayant déjà jeté dans le cœur de Judas, fils de Simon, l'Iscariote, de le trahir. » Donc le diable, chapitre 13, verset 2, nous dit que le diable a déjà déposé dans le cœur de Simon le projet de trahir Jésus. Et le verset 27 nous dit « Et après le morceau, alors Satan entra en lui. » Jésus donc lui dit « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Alors, c'est un texte vraiment passionnant, il y a plein de choses à dire. Mais vous voyez que premièrement, il y a une progression. Au début, on entend juste que le diable a mis dans le cœur le projet, l'idée. C'est ça que je vous dis qu'il fait ça avec des idées. C'est pas tellement qu'il va nous prendre. Et non, il fait entrer dans la tête une idée. Et donc il avait mis l'idée dans la tête de Judas de trahir Jésus. Donc ça, c'est l'idée qui commence, et donc l'idée, à un moment donné, si on la laisse entrer, elle fait son chemin, et elle s'installe. Et donc l'idée... Et ensuite, le verset va plus loin, et c'est pour ça que ça monte une gradation. C'est qu'il dit, au verset 27, « Satan entra en lui ». En d'autres termes, c'est un verset qui montre qu'il y a la tentation, il y a l'idée de la faute, et puis il y a le moment où nous adhérons à la faute, où nous entrons dedans. Satan entra en lui. C'est extraordinaire, hein, ce passage. Il nous montre vraiment comment est-ce que, par quel processus il peut tromper les humains. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous savez que à un moment donné, les gardes sont arrivés pour prendre Jésus. Et il nous a dit que les gardes suivaient Judas, qui leur montrait qui était celui qu'il fallait prendre. Et en fait, c'est extraordinaire parce qu'en fait, le texte dit Satan entra en lui. En d'autres termes, les gardes, ils suivaient Judas pour aller prendre Jésus, mais ils ne savaient pas qu'ils suivaient un homme en qui Satan était entré. Donc en fait, humainement, il ne se passe rien. Si vous prenez une photo de la scène, vous allez dire bah, le diable, il est où? Bah non, il est nulle part. Vous avez juste des gens, les gardes, qui suivent un monsieur qui s'appelle Judas. Mais spirituellement, l'intention et le projet dans lequel Judas est un projet diabolique, et les gens qui le suivent sont en train d'entrer dans un projet diabolique. D'accord? Donc il faut faire attention à qui on suit, il faut faire attention de savoir que les gens ne sont pas forcément toujours animés de l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Il y a des gens, parfois, que on ne le sait pas, ils sont animés d'un mauvais esprit, et toi, tu es là, tu es en train de suivre la voie de Satan. Prenez l'exemple de Corée, dans Nombre. Corée qui incite le peuple à la révolte contre Moïse et les responsables. Et les gens, il a raison. Oui, mais attention, il a peut-être raison, mais tu es en train de suivre la voie du diable. Ça nous montre qu'il nous faut avoir un discernement important sur les choses, sur les personnes, sur les situations, parce que Satan, justement, est sournois. Vous allez peut-être mourir sans jamais l'avoir vu, ni même avoir vu concrètement un démoniaque devant vous. C'est pas pour ça qu'il n'aura pas agi. Satan aussi pose des pièges. Alors ici, je vais faire très vite, 1 Timothée 3, verset 7, il faut aussi qu'ils reçoivent, on parle des anciens de l'Église, de ceux du dehors, un bon témoignage, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Donc Satan aussi pose des pièges sur la voie des croyants, et en fait, dans le texte ici, il s'agit de dire que, voilà, si un responsable n'a pas un bon témoignage auprès des gens du dehors, ça pourrait être un piège pour le témoignage de l'Église, c'est-à-dire que Satan pourrait utiliser le mauvais témoignage de ce responsable pour discréditer l'Église, pour discréditer l'Évangile. Et donc, ça fait penser que le diable est parfois derrière les scandales qui font qu'on n'écoute plus l'Évangile, qu'on méprise l'Église. Parfois, Satan a un intérêt à ce que l'Église se pourvoie, à ce que l'Église se comporte mal, parce que c'est tout à fait une occasion de dire, tous ces gens-là. Satan aussi veut perturber, détruire la foi des croyants. Vous connaissez ce texte. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et donc, notre objectif, une intention de Satan, c'est réellement de perturber notre foi, de nous mettre dans des situations où nous sommes éprouvés dans notre foi, éprouvés dans notre attachement au Seigneur. Et c'est un peu, ce texte en fait fait quand même a beaucoup de consonance avec le texte de Job, hein, quand Satan vient et dit si il t'oublie, c'est parce que tout va bien dans sa vie. Donc, vous voyez que ça ouvre la porte à une situation dans laquelle Job est éprouvé dans sa foi. Donc, c'est-à-dire, à un moment donné, la foi est éprouvée. Et donc, ça, c'est une autre intention de Satan, mais c'est un texte sur lequel je ne vais pas m'arrêter. Une autre intention de Satan, c'est de faire obstacle à la progression de la semence de l'Évangile. Vous connaissez ce texte de Matthieu 13, 19, le malin, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans le cœur. Il a donc l'intention aussi d'empêcher la parole de s'installer, d'empêcher la parole de prendre racine en nous, d'empêcher l'action de la parole de Dieu. Une autre intention de Satan dont on nous parle dans la Bible, c'est de mettre des embûches sur le chemin des croyants. Dans 1 Thessaloniciens 2, 18, il est dit « Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. » Alors, il y a toute une énigme sur de quoi il parle, mais beaucoup de commentateurs pensent qu'il parle de la persécution. Et donc, les chrétiens, les croyants ayant été persécutés, il associe l'apôtre, il associe la persécution dont ils sont victimes à l'œuvre de Satan qui veut empêcher justement l'évangile de progresser. Bon, ça c'est une hypothèse. Et donc, ça fait comprendre qu'il y a des obstacles directs. Il peut tenter de mettre des obstacles directs sur la voie des croyants, mais aussi des obstacles indirects. C'est-à-dire, l'obstacle est indirect. Vous avez l'impression que c'est juste une situation ou une personne, mais indirectement, Satan est à l'œuvre pour mettre des embûches sur le chemin des croyants. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être des voisins compliqués, ça peut être plein de choses qui peuvent être. Des attaques à la foi aussi. Satan aussi tente de mettre en péril la foi des croyants. 1 Thessaloniciens 3, verset 5 dit « Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. » Ici encore, en fait, il y a une opposition qui est faite contre les Thessaloniciens. Et là, en fait, l'effet possible de l'opposition, de la persécution, l'effet possible, c'est le découragement de la foi des croyants. C'est-à-dire, à un moment donné, on est tellement pris par tant de persécutions, tant d'attaques, qu'on se décourage. Et donc, cela fait dire à beaucoup que l'arme principale du diable pour les croyants, c'est le découragement. Je ne dis pas que c'est la seule, mais beaucoup disent ça, et je pense que c'est quelque chose auquel nous devons particulièrement faire attention. Il y a des moments comme ça quand... vous ne vous voyez pas, mais il y a des moments comme ça, quand on regarde l'assemblée, on sent parfois on sent des gens accablés. Et des moments, je vous vois et je dis, hein, aujourd'hui, il y a pas mal de gens accablés. Et donc, le diable aussi travaille sur nos coups de mou spirituels, nos coups de mou, nos moments où on est accablé, où on est découragé, où on est... C'est aussi des choses qu'il peut susciter pour empêcher notre progression spirituelle. Je pense que je vais sauter tout ça. Une autre chose que Satan fait aussi, c'est de mentir, c'est de tromper. Satan ment. Il est père, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Son premier job, c'est de mentir. Il ment sur Dieu, il ment sur la parole de Dieu, il ment sur le plan de Dieu, il ment sur la nature de l'homme, il ment, il déforme ce que Dieu dit, ce que Dieu veut, ce que Dieu fait. Un autre exemple aussi, et je pense que pour les chrétiens c'est extrêmement important, d'une autre stratégie, une autre manœuvre de Satan, c'est la distraction. Ou alors une autre intention de Satan, c'est l'anesthésie. Satan aime bien anesthésier les chrétiens. Les rendre endormis. Tout le monde, tout. Et pendant qu'on est anesthésié, il fait son petit bazar, son petit machin. Donc, l'anesthésie de la foi. Alors, ça peut être la distraction. La distraction, c'est quand les croyants sont complètement pris par autre chose. Donc, par exemple, dans les églises, il faut faire très attention parce que quand il y a des difficultés, quand il y a des conflits, souvent les responsables sont complètement distraits par ça. Et donc, parfois, c'est une stratégie. Il distrait les croyants. Il vous met dans des histoires, des machins, pendant ce temps-là, vous ne faites pas ce que vous devez faire. Il fait diversion. Et il anesthésie aussi les chrétiens. Il fait en sorte qu'il n'y ait plus cette vigilance, cette foi vivante. Et donc, il y a aussi une stratégie de Satan, c'est la distraction. Et je vais évoquer ici un texte que vous avez certainement déjà entendu plusieurs, mais ça peut ne pas être une mauvaise chose. C'est en fait un texte simulé. C'est pas vrai, c'est pas la Bible, c'est juste une invention que certains ont écrit pour parler des nouvelles stratégies de Lucifer. Alors je vais le lire. L'idée c'est quoi? C'est en fait Satan qui convoque une grande réunion pour tous les démons. C'est la Convention nationale mondiale des démons de Satan. Et dans son discours d'ouverture à ses anges déchus, Satan leur dit « Nous ne pouvons pas empêcher les chrétiens d'aller à l'église. Nous ne pouvons pas empêcher les chrétiens de lire leur Bible et de connaître la vérité. Nous ne pouvons même pas les empêcher de faire l'expérience d'une relation avec Jésus-Christ. S'ils réussissent cette relation avec Jésus, notre pouvoir sur eux sera brisé. » Laissons-les, donc les chrétiens, laissons-les avoir leur style de vie conservateur, mais volons-leur leur temps pour les empêcher d'avoir une relation intime avec Jésus-Christ. Alors voilà ce que je veux, dit Satan aux anges déchus, distrayez-les, les chrétiens. Empêchez-les de s'emparer de leur sauveur et de maintenir une relation vitale avec Jésus. Alors les anges disent à Satan, mais comment est-ce qu'on va faire pour les empêcher de... Premièrement, gardez-les occupés par des choses non essentielles de la vie et inventez des machinations pour occuper leur esprit. Deuxièmement, poussez-les à emprunter, à dépenser. Troisièmement, persuadez-les de travailler beaucoup et de consacrer leur vie entière au travail. Quatrièmement, empêchez-les de passer du temps avec leurs enfants et avec leur famille. Cinquièmement, stimulez-les dans leur esprit pour qu'ils ne puissent plus entendre la voix du Saint-Esprit. Faites plein de bruit pour qu'ils n'écoutent plus Dieu, pour qu'ils soient pris ou qu'ils soient perdus. Sixièmement, poussez-les à mettre la radio, les cassettes, et quand ils sont au volant, etc., pour qu'ils n'aient plus de temps où ils pensent à Dieu et se tournent vers Dieu. Veillez à ce que chaque magasin joue de la musique sans interruption. Couvrez les tables basses de magazines, de journaux pour qu'ils soient envahis de nouvelles du monde, qu'il y ait plein de panneaux publicitaires partout et qu'ils ne puissent pas se tourner vers Dieu. Et puis, il y en a encore plein d'autres. Poussez-les à être excessifs. Faites en sorte de ne pas leur laisser le temps de méditer aux merveilles de Dieu. Gardez-les occupés, occupés, occupés. Une stratégie de Satan, c'est de nous occuper. Et je vous dis clairement que quand je lis ça, je pleure pour ma propre vie. Hein. Je dis, je suis trop occupé. Mais n'oublions pas que c'est une stratégie de Satan. Nous sommes dans un temps, pas à jumer, où dans les églises, on a toujours l'impression qu'on travaille avec les ministres du gouvernement fédéral qui n'ont jamais le temps pour rien quand il s'agit de Dieu. Tellement on est occupé. Et quand on n'est pas occupé, on remplit nos vies. Et on n'a pas de temps pour prier. On ne parle pas encore de venir à l'église, hein, pour prier. On n'a pas de temps pour méditer à la parole de Dieu, pour regarder, pour passer du temps avec sa famille, pour avoir des discussions profondes. Une stratégie de l'ennemi aussi, c'est de voler notre temps. Et vous savez que c'est aussi attesté par Exode, au début, quand Pharaon, il leur dit « Nous voulons aller rendre un culte à l'Éternel », Pharaon dit « Occupez-les ». Donnez-leur du boulot, accablez-les. Alors évidemment, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, mais parfois aussi, nous organisons nos vies de telle sorte que nous n'avons pas de temps pour glorifier Dieu, pour le servir, pour avoir l'esprit tourné vers lui, pour entretenir une relation avec lui. Une autre tentative puissante de Satan par rapport aux chrétiens, c'est de les éloigner de leur église locale. Alors, vous pouvez dire que... Hein, c'est une stratégie profonde de Satan. C'est de séparer les chrétiens les uns des autres. C'est d'amener les chrétiens à ne pas être ensemble, à ne pas être ensemble dans la présence de Dieu, à ne pas entendre la parole de Dieu ensemble, parce que quand nous sommes tout seuls, nous sommes bien plus vulnérables. Et vous vous souvenez peut-être de ce message sur le monoxyde de carbone. Lorsque nous sommes égarés, lorsque nous sommes seuls, il fait ce qu'il veut avec nous. Il y a encore à Liège une personne qui est décédée cette semaine de ça. N'abandonnons pas nos assemblées. N'abandonnons pas la relation avec nos frères et sœurs. C'est notre couverture spirituelle d'être ensemble, de prier les uns pour les autres, de nous encourager. Parce que lorsque nous ne sommes pas vigilants, l'ennemi peut nous atteindre plus facilement. Alors je saute tout ça. Satan veut nous égarer dans des fausses doctrines, Je dis rapidement ça pour finir. Comment faire pour ne pas laisser de place à l'ennemi? On va le voir en détail après, mais la première chose, c'est de nous soumettre à Dieu et à sa parole. C'est le béaba pour nous fortifier contre les attaques de l'ennemi, c'est de nous soumettre à Dieu et à sa parole. Les portes ouvertes à l'ennemi sont principalement la désobéissance à Dieu, la négligence sur certains principes lui donne l'occasion de nous faire du mal. Alors pour finir, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable, dit 1 Jean 3, verset 8. Nous avons eu une introduction de culte extraordinaire sur Dieu qui est notre refuge. Et ça doit nous encourager, parce qu'il est notre refuge par rapport à nos tristesses, à nos difficultés, mais aussi notre refuge par rapport aux tentatives de l'ennemi. On n'est pas tout seul, on n'est pas sans garde. Il est notre refuge, notre protecteur, notre gardien. Nous n'avons pas à avoir peur parce que nous sommes dans la bonne main de Jésus. Et il nous garde et il nous protège. Alors pour finir avec ce chant que notre éminent frère Benoît nous a partagé. En fait, le chant reprend tout ça. Si vous allez reprendre le chant, en fait, le chant reprend tout ça. Cette tentative de l'ennemi, de nous détruire, de nous faire du mal. Nous avons un rempart. Nous avons un rempart. Nous avons simplement à rester attachés à ce rempart, à rester près de lui, à rester dans le refuge, afin que l'ennemi n'ait pas avantage sur nous. Amen.